Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1989. Le goût de l'archive est un essai réflexif où Arlette Farge, historienne spécialiste du XVIIIe siècle, examine le travail historique depuis son lieu le plus concret, la salle de consultation, et les dossiers manuscrits. Le livre ne propose ni une histoire institutionnelle des archives, ni un manuel technique systématique. Il associe plutôt une description sensible de la recherche à une réflexion exigeante sur les conditions de fabrication du savoir historique. À partir surtout de documents policiers et judiciaires de Paris sous l'Ancien Régime, Farge montre comment des traces administratives font surgir des vies populaires, souvent absentes des récits officiels. Elle insiste toutefois sur la distance nécessaire entre la force émotionnelle du document et son interprétation. L'archive fascine parce qu'elle semble livrer le réel, mais elle demeure construite par des procédures de pouvoir, des circonstances et des écritures partielles. Devenue un classique de la réflexion historiographique, cette courte œuvre éclaire à la fois le plaisir matériel de la recherche, ses contraintes et sa responsabilité intellectuelle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la salle des archives comme expérience matérielle et intellectuelle, Farge accorde une place centrale au geste ordinaire qui précède toute interprétation, obtenir une place. Consulter des instruments de recherche, attendre les liasses, déchiffrer des écritures difficiles, recopier et classer. Cette attention au cadre matériel évite de présenter la connaissance historique comme le résultat abstrait de grandes idées. La recherche naît aussi de routines, de lenteurs et de règles propres aux institutions de conservation. Les salles de lecture constituent ainsi des espaces sociaux, avec leurs usages implicites, leurs habitués et leurs disciplines silencieuses. Pour une chercheuse ou un chercheur débutant, cet univers peut sembler fermé. Avec le temps, ces codes deviennent une manière de travailler et de penser. Farge ne réduit pourtant pas la consultation à un rite professionnel. Le contact avec le papier ancien, les dossiers volumineux et les fragments inattendus produit une forme de présence du passé. Cette présence ne donne pas accès direct aux personnes disparues, mais elle rend tangible la distance qui sépare le présent de leurs existences. Le livre analyse donc la matérialité des archives comme une condition de rigueur. Lire lentement, noter avec précision et accepter la résistance du document empêche les conclusions hâtives. Le plaisir de la découverte est réel, mais il est inséparable de la patience et de la méthode qui rendent cette découverte exploitable. Deuxièmement, les archives judiciaires comme accès indirect aux vies populaires, le matériau privilégié par Farge provient des archives policières et judiciaires du XVIIIe siècle. Ces documents permettent de rencontrer des hommes et des femmes dont les écrits personnels ont rarement été conservés, pauvres, domestiques, ouvriers, errants. Personnes engagées dans des conflits familiaux ou des infractions mineures. Cette possibilité explique la puissance historique de telles sources. Elles retiennent des paroles, des descriptions de gestes, des tensions de voisinage et des traces de conditions de vie qui resteraient autrement presque invisibles. Mais leur richesse tient aussi à leur caractère problématique. Ces voix parviennent aux lecteurs parce qu'elles ont été recueillies, transcrites et organisées par des agents de police, des greffiers ou des magistrats. Elles sont donc médiatisées par une institution qui surveille, interroge et qualifie les comportements. Farge invite à travailler avec cette médiation plutôt qu'à la faire disparaître. Le document judiciaire ne doit pas devenir un miroir transparent du peuple, ni une simple preuve anecdotique. Il faut examiner les circonstances de sa production, les questions posées et les catégories administratives employées. Cette approche permet de restituer une densité aux existences modestes sans leur attribuer artificiellement une parole souveraine. Elle fait de l'histoire sociale une pratique attentive aux traces fragiles, aux asymétries de pouvoir et aux formes concrètes par lesquelles les vies ordinaires dans les archives. Troisièmement, la séduction du document doit être corrigée par la critique des sources. Une idée décisive du livre est que les archives peuvent sembler évidentes tout en demeurant énigmatiques. Un manuscrit ancien, une déposition ou une liste d'objets possède une force de réel, il donne le sentiment de toucher un événement et de rencontrer des individus du passé. Cette impression constitue une ressource pour la curiosité historique, mais elle peut aussi conduire à des interprétations abusives. Farge rappelle que le document ne livre pas spontanément sa vérité. Il résulte de choix de conservation, de procédures institutionnelles, de formulations imposées et parfois de silences difficiles à mesurer. Une même pièce peut soutenir des lectures opposées si le chercheur ne précise ni ses questions ni ses règles de vérification. La critique ne détruit donc pas le pouvoir évocateur de la source. Elle lui donne une juste place. Elle consiste notamment à distinguer ce qui est attesté de ce qui est supposé, à comparer les documents, à repérer les absences et à éviter de transformer un détail frappant en généralité. Le livre refuse ainsi deux simplifications, croire que les archives mentent toujours ou croire qu'elles disent immédiatement le vrai. elles offrent des relations nombreuses, parfois contradictoires, avec le réel. Le travail historique consiste à organiser cette abondance sans la réduire à une histoire lisse, linéaire ou entièrement maîtrisée. Quatrièmement, écrire une histoire qui préserve la singularité sans renoncer à l'analyse. Le goût de l'archive réfléchit aussi au passage difficile entre la consultation de fragments et la rédaction d'une histoire. Les dossiers font apparaître des situations singulières, des mots isolés et des détails souvent surprenants. Leur attrait peut pousser à accumuler les exemples ou à privilégier une émotion immédiate. Farge montre au contraire que l'écriture historique doit construire une intelligibilité sans effacer les aspérités du matériau. Il ne s'agit pas de faire entrer chaque existence dans une explication générale trop rapide, mais de dégager des questions à partir de traces incomplètes. La singularité devient alors un point de départ pour comprendre des rapports sociaux, des contraintes institutionnelles, des sensibilités ou des pratiques collectives. Cette exigence concerne particulièrement les personnes peu visibles dans les sources. Les faire exister dans le récit ne signifie pas parler à leur place ni romancer ce que les documents taisent. Il faut maintenir la différence entre une parole enregistrée dans une procédure et une vie entière, qui reste largement inaccessible. Le style de Farge, volontiers littéraire et attentif aux images, sert cette réflexion en rendant sensible la tension entre proximité et distance. Son essai défend ainsi une écriture capable de transmettre le trouble de la recherche tout en exposant les limites de ce qui peut être affirmé. L'histoire gagne en humanité lorsqu'elle assume ses limites au lieu de les dissimuler. En dernier lieu, une réflexion sur le pouvoir qui produit et ordonne les traces du passé, les archives étudiées par Farge ne sont pas des dépôts neutres. Elles proviennent largement de dispositifs de police et de justice qui observent la population, enregistrent les désordres et transforment des événements en dossiers. Cette origine détermine ce qui devient visible. Les conflits, les accusations, les déplacements suspects ou les écarts aux normes produisent davantage de traces que la continuité paisible des journées ordinaires. En conséquence, le chercheur doit se demander non seulement ce que les documents montrent, mais aussi pourquoi ces documents existent et quelle réalité ils laissent hors champ. Cette attention à la fabrication administrative du savoir permet de comprendre les liens entre écriture, classement et pouvoir. Les catégories employées par les institutions ne décrivent pas simplement les personnes. Elles contribuent à les définir dans un cadre de surveillance et de jugement. Farge ne conclut pas pour autant que ces fonds seraient inutilisables. Leur biais même renseigne sur les formes de contrôle social et, par détour, sur les tactiques, les paroles et les résistances de ceux qui y apparaissent. Le livre propose donc une éthique de lecture, respecter la fragilité des traces, ne pas confondre le regard des autorités avec celui des individus, et tirer parti des contradictions du dossier. Cette démarche demeure utile pour toute recherche fondée sur des sources produites par une administration, une justice ou une institution de contrôle. En conclusion, le goût de l'archive conviendra aux étudiantes et étudiants qui découvrent les sources primaires, aux historiennes et historiens confirmés, aux archivistes, aux généalogistes, ainsi qu'aux lecteurs attirés par les liens entre mémoire, écriture et enquête. Son bénéfice pratique est de rendre visibles les opérations souvent invisibles de la recherche cherchée, attendre, recopier, comparer, douter, classer puis écrire. Son apport intellectuel est plus large, il apprend à ne pas confondre une trace avec une vérité complète, tout en refusant le scepticisme qui rendrait toute connaissance impossible. Farge montre comment une lecture critique peut préserver la charge humaine des documents et donner place à des existences populaires sans les idéaliser. Par rapport à un manuel de méthodologie, le livre est moins systématique et offre peu de procédures standardisées. Il se distingue précisément par son attention au désir de savoir, à la matérialité des papiers et aux affects que suscite le travail savant. Par rapport à une autobiographie professionnelle, il reste aussi plus concentré sur les sources que sur la trajectoire personnelle de son autrice. Cette position intermédiaire explique sa place durable, il est à la fois méditation sur le métier, leçon de critique documentaire et réflexion sur les voies que les institutions ont enregistrées sans toujours vouloir les sauver de l'oubli. Sa prose dense peut demander une lecture lente, mais cette densité correspond à son objet, apprendre à regarder les archives avec curiosité, précision et retenue. Si vous souhaitez soutenir Arlette Farge, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.